Radio Kapi.
Passation des commandements entre les chefs d'état-major général des FARDC sortants, le général d'armée Mbala Moussissi, et le chef d'état-major général entrant, le lieutenant-général Christian Tshiwewe. La cérémonie s'est déroulée hier devant le chef de l'État au camp Kokolo. Et puis la coordination estudiantine de l'université de Kinshasa plaide pour la levée de la grève. Ils ont déposé hier jeudi leur mémorandum auprès des associations des professeurs, des chefs de travaux et du comité de gestion de l'UNIKIN. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, ce joyeux Baïdika, président de l'AFEC Sud Kivu, responsable d'un cabinet d'audit. Il nous parlera du sommet États-Unis-Afrique qui se tiendra à Washington du 13 au 15 décembre prochain. Il dit espérer que ce sommet permettra de nouer des partenariats gagnant-gagnant avec des opérateurs économiques américains. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Le président de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce jeudi au quartier général de FARDC au camp Kokolo la cérémonie de passation de commandement entre le chef d'état-major général de FARDC sortant, le général d'armée Mbala Moussessé, et le chef d'état-major général entrant, le lieutenant-général Christian Tshiwewe. Au cours de cette même cérémonie, il a été procédé à la reconnaissance des grades de quelques officiers promu. Reportage Billy Ivan Lutumba.
Je vous donne cet étendard, symbole de votre commandement. Je vous demande de défendre jusqu'au sacrifice suprême.
C'est à travers ces mots que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, remet l'étendard, symbole de commandement, au nouveau chef d'état-major général des FARDC, Christian Tshiwewe.
Je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, de respecter tous les membres, l'esprit et la lettre de la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées et consacrer toutes mes forces et tous mes savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo contre toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême.
Serment reçu par le commandant suprême des FARDC de la PNC. Peu avant, le chef d'état-major général sortant, le général de l'armée Mbala Moussessé, a affirmé sa confiance envers son successeur, envers qui il a exigé des officiers et éléments de troupes, respect, soumission et discipline.
Et puis, le M23 soutenu par le Rwanda s'expose à la puissance de feu des FARDC et de la force régionale des pays de l'Afrique de l'Est, qui est en train de se déployer dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ses propos sont du mandataire spécial du chef de l'État au cours de l'émission spéciale Dialogue entre Congolais d'hier jeudi, animée par Nkeli Kouté. Le professeur Serge Tshibangu a affirmé que le M23 ne pourrait être de nouveau admis au processus de Nairobi qu'à condition de se retirer de toutes ses positions actuelles, notamment Bunagana et toutes les localités que ce mouvement rebelle occupe depuis 4 mois maintenant. Le professeur Serge Tshibangu exclut entre-temps toute forme de négociation avec le mouvement rebelle. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Le M23, mais n'oubliez pas que le M23 aujourd'hui est soutenu par un pays voisin, notamment le Rwanda, qui agresse l'intégrité de notre territoire. Donc s'il décide de se retirer et aussi bien sûr de maintenir le cessez-le-feu, pourquoi pas? Pour moi, je représente tout le processus de Nairobi avec tous ses groupes armés et les leaders de communautés.
Mais ça, la grande question aujourd'hui, c'est Bunagana, 4 mois aux mains des rebelles, M23, la population se pose beaucoup de questions, professeur.
Alors,
Serge.
Moi, en tant que facilitateur au niveau du processus de Nairobi, ce que je peux dire par rapport à Bunagana, c'est que le M23, soutenu par le Rwanda, qui déstabilise nos populations en les envoyant dans des forêts, certains en exil et certaines atrocités qu'ils sont en train de commettre, pour moi, le M23, qui est d'ailleurs qualifié par notre gouvernement de groupe terroriste, s'est déjà exposé à la force régionale qui, elle, est en train de se déployer. Et je pense que très bientôt, comme le chef de l'État l'a annoncé, je crois que le M23 s'expose à la puissance de feu de la force régionale et des FARDC.
Donc, il n'y aura pas de négociation avec
M23. Il n'y a pas de négociation avec le M23.
Pendant ces temps, le ministre angolais des Affaires étrangères a présenté hier jeudi auprès des autorités de la MONUSCO l'officier supérieur angolais qui va diriger le mécanisme de vérification dans l'est de la RDC. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route sur la normalisation de la situation des relations entre la RDC et le Rwanda. Le ministre angolais a affirmé que cet officier militaire va travailler en collaboration avec la MONUSCO qui, selon lui, joue un rôle important dans le processus de paix dans cette partie du pays. On écoute Tété Antonio qui est au micro de Grâce Amzati.
Il a été décidé à Luanda qu'il fallait créer un mécanisme de vérification et dirigé par un officier supérieur angolais. Dans le cas échéant, un général angolais que nous sommes venus présenter auprès de la MONUSCO. Parce que vous savez que dans la feuille de route aussi, il est bien clair, il est dit que ce général va travailler en collaboration avec la MONUSCO et sera basé à Goma. Après avoir été reçu par le président de la République, on ne pouvait pas venir à Kinshasa sans voir la même MONUSCO qui a été énormément citée par le chef d'État dans la feuille de route et pour pouvoir coordonner dans ce cadre-là. Le processus de Luanda est le processus politique, mais en coordination sans doute avec le processus de Nairobi. Cela dit que le général, une fois déployé sur le terrain, va travailler en étroite collaboration avec la force qui sera déployée par l'Afrique de l'Est. Nous œuvrons tous pour que l'Est de la RDC soit une région et n'a jamais cessé d'être une région d'espoir et que cet espoir soit donc concrétisé et que nous puissions tous vivre en paix et nous puissions jouir de ce que Dieu nous a donné.
Autre nouvelle, à Goma, la police urbaine dit avoir saisi ce jeudi matin au moins 13 sacs de chanvre et 8 cartons de produits pharmaceutiques périmés. C'est lors d'une opération de bouclage mixte menée dans la matinée par la police et les éléments de FRDC au quartier Mapendo-Birere dans la commune de Goma. Au moins 28 ressortissants rwandais en situation irrégulière aussi ont été interpellés lors de cette opération. Le commandant de la police urbaine indique que tous ces produits seront remis à la commission de destruction de produits toxiques dirigée par le parquet de grande instance et le service de l'environnement. Le commissaire supérieur principal Job Alissa explique au micro de Bernardine Diambo.
Nous avons toujours l'habitude de faire des opérations ciblées dans différents quartiers de Goma. Cette fois-ci, c'était pour les quartiers Mapendo Birere, où cette nuit nous avons encadré les quartiers Birere dans le cadre de rechercher tout fait, tout matériel qui peuvent faire du mal à la sécurité de la population. Par rapport au bilan, nous avons saisi des produits toxiques comme 13 sacs de chanvre, 3 cartons de produits pharmaceutiques déjà périmés. Mais ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est le 28 sujet rwandais en séjour irrégulier dans la ville. Nous voulons connaître pourquoi leur présence à tout moment dans tous les coins de notre quartier où on fait ces genres d'opérations. Nous trouvons toujours ces gens sur ces coins de la ville. Et nous osons croire qu'ils influencent sur l'insécurité de cette ville.
Le colonel Job Alissa demande la collaboration de la population en dénonçant des cas suspects qui résident dans leur quartier et avenue afin de ne pas être qualifiés de complices. Autre nouvelle, la coordination estudiantine de l'Université de Kinshasa a plaidé ce jeudi auprès de l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa à Pukine, de l'Association du corps scientifique ACS et du comité de gestion en faveur de la levée de la grève des professeurs, chefs de travaux et assistants. Cette plaidoirie sous forme d'un mémorandum a été déposée d'abord au siège de la Pukine, ensuite au siège de l'ACS Unikin et enfin au comité de gestion. Elle est justifiée par le fait que les étudiants n'étudient plus depuis le mois de juillet dernier. Écoutez Michel Cosmas Ontonaché, coordonnateur de la coordination estudiantine de l'Unikin, au micro d'Innocent Fadili.
À l'issue de cette situation et à durer près de 3 mois, avec comme conséquence le ralentissement des activités académiques, la coordination estudiantine de l'Université de Kinshasa a décidé d'échanger avec ses différents organes pour faire des plaidoyers en faveur des étudiants qui sont victimes de cette situation. Nous espérons, à l'issue de ces échanges, nos doléances ont été entendues et que nos chers professeurs et cadres scientifiques qui sont aussi nos parents tiendront compte de l'impact de cette situation que notre formation et prendront des mesures idoines à cet effet.
Notons que l'Assemblée générale de la Pukine aura lieu ce vendredi pour évaluer le respect des revendications des professeurs par le gouvernement. Et puis dans la province de la Tchopo, le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Jean-Faustin Bongilo Bouendi, a procédé ce jeudi à la remise de matériel et équipement à la brigade de sécurité de cet établissement d'enseignement universitaire. C'était en présence des membres du comité de gestion, des doyens de différentes facultés, des cadres et agents ainsi que de la police universitaire et bien d'autres invités. Quel type de matériel a-t-il remis et quelle est la mission dévolue à cette police? Un reportage de Jacques Moukonkolé.
L'environnement devient de plus en plus violent et représente une menace permanente pour l'université de Kisangani et ses infrastructures, a révélé le directeur de la police universitaire. Pour Bongele Lissandia, il faut suffisamment équiper la police universitaire.
Pour permettre à ce service de jouer son rôle de surveillance, de protection des biens et du personnel, ainsi que de combattre les vols sur toutes ses formes au sein de notre alma mater.
Afin que cette police joue pleinement son rôle, le comité de gestion la dote de certains équipements, notamment un appareil de communication, une matraque, un scanner, un imperméable et une moto. Par ailleurs, le professeur Jean-Faustin Bongilo Bouindi a circonscrit le domaine d'intervention de la police universitaire.
Votre rôle et votre compétence, c'est exclusivement à l'intérieur de l'université. Vous n'êtes pas policier en dehors de l'université.
Signalons que cette cérémonie a été aussi marqué par un défilé des éléments de la police universitaire composée d'environ 50 éléments, dont une femme. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Le Conseil de barreaux européens écrit au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour s'impliquer dans la libération de Maître Justin Mouiri, avocat au barreau de Goma, dans le Nord Kivu. Pareil pour la ZADO, qui interpelle le parquet général près la Cour de cassation sur le dossier de ce défenseur des droits humains arrêté depuis le 5 octobre sur ordre du procureur général de Goma, alors qu'il était dessaisi d'une affaire dans laquelle l'avocat arrêté l'avait requisé pour partialité. Les détails avec Jeff Ngoy.
C'est depuis septembre que cette affaire se rapporte à une vente d'une concession de champs dans le Masisi dont Justin Mouiri assure la défense a été demandée en communication par le parquet général près la Cour de cassation à Kinshasa. Bien que dessaisi, le procureur général de Goma fait arrêter l'avocat et le maintient en prison. L'affaire soulève un tollé chez les défenseurs des droits humains. Premier à monter au créneau, le président de la ZADO alerte sur l'atteinte aux droits de la défense par la justice. Le Conseil des barreaux européens, qui représente les barreaux de 45 pays, exprime son inquiétude face à cette arrestation qualifiée d'arbitraire. En train d'assister son client, Justin Mouiri a reçu les menaces de la part du parquet de Goma, qui par la suite a ouvert une instruction à son encontre sans en donner un motif valable. Selon le Conseil, le magistrat du parquet a des intérêts particuliers dans le dossier traité par Mouiri. Suite à cela, l'avocat va saisir alors le PG Kinshasa pour que cette affaire lui soit communiquée afin d'être traitée en toute impartialité. Le CCB attire aujourd'hui l'attention de Félix Tshisekedi sur les principes de base de l'ONU relatifs au rôle du barreau et à la liberté d'expression.
Et puis, le 14 octobre de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la vue. Célébrée sous le thème « Aime tes yeux », cette journée vise à sensibiliser les communautés et les décideurs sur les pathologies oculaires dans le cadre de la santé oculaire universelle d'ici 2030. Au Maniema, cette journée est célébrée de manière particulière. Le centre oculaire 5e CELPA organise à l'occasion de la dite journée deux journées portes ouvertes ce vendredi 14 et demain samedi 15 octobre. À Kindu, c'est une correspondance de Florence Kizalunga.
Durant ces deux jours, Dr. Charles Omesumbu invite ceux qui ne connaissent pas l'état de leurs yeux à se faire consulter gratuitement.
Nous avons organisé deux journées portes ouvertes. Nous allons examiner gratuitement tous les malades qui viendront nous voir. Surtout ceux-là qui ne savaient pas nous voir parce qu'ils s'imaginaient qu'ils ne seraient pas à mesure de payer la consultation. Et nous les attendons. Nous n'attendons pas ici des gens qui ont déjà des fiches ici, des gens qui ont déjà été vus ici. Ceux-là, ils connaissent leurs problèmes. Mais ceux-là qui ne connaissent pas encore l'état de leurs yeux, nous les attendons.
Selon ces derniers, 80% des cas de cécité les sont par des causes évitables.
80% des aveugles que nous voyons le sont par des causes évitables. C'est-à-dire que nous pouvons récupérer au moins la moitié d'entre eux chirurgicalement. Et il y a d'autres, nous pouvons prévenir la survenue de la cécité. Il n'y a que les 20% là qui nous échappent. Mais au moins, si à 80% on peut sauver la situation, je crois que c'est déjà beaucoup. Mais malheureusement, les moyens ne suivent pas.
Signalons que ces consultations vont se dérouler au centre oculaire 5e Selpa de Kindu. Florence Kizalunga, Kindu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En international, au Burkina Faso, les assises nationales débutent ce vendredi pour 2 jours à Ouaga 2000. Les différents représentants des couches socio-professionnelles sont invités à participer à cette rencontre qui vise à mettre sur pied une nouvelle charte de transition. Ces rencontres vont se dérouler pendant 2 jours dans la salle de banquet Ouaga 2000. 2 semaines après le coup d'État qui a renversé le colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba, ces assises visent à mettre en place une nouvelle charte de transition et à nommer un nouveau président.
L'invité.
Radio Okapi clôture sa série thématique sur le sommet États-Unis-Afrique avec un invité. Il s'agit de Joyeux Baïdika, opérateur économique, président provincial de la FEC, qui compte se rendre également aux USA, à Washington, du 13 au 15 décembre pour participer au sommet États-Unis-Afrique. Il a un cabinet d'audit qui représente par moment de grandes firmes internationales américaines dans le secteur. Il dit espérer que ce sommet permettra de nouer des partenariats gagnant-gagnant avec des opérateurs économiques américains évoluant dans le même secteur que lui. Joyeux Baïdika est notre invité dans cette édition du journal. Il s'entretient avec Cynthia Bachizi Nabizana. Suivez.
Monsieur Baïdika, bonjour.
Bonjour Madame Cynthia.
Sauf changement, vous comptez en tout cas participer au prochain sommet États-Unis-Afrique qui va se tenir en décembre à Washington. Comment on se prépare à participer à un tel événement?
Oui, comme vous l'avez dit, sauf changement, mais je pense que il est certain qu'on va participer à ces forums parce qu'on a été contacté par notre ambassade des États-Unis qui nous a parlé de ces forums. On a trouvé que c'était intéressant d'aller aussi rencontrer les opérateurs économiques américains.
Et vous y allez justement avec quelles attentes?
On y va pour voir maintenant comment les États-Unis nous considèrent en ce moment, pour comprendre, pour nous ouvrir à l'extérieur. Parce que il est vrai que depuis un certain temps, il y avait une crise de confiance entre les États-Unis, l'Occident et le Congo. C'était dû à la situation d'insécurité que nous avons connue depuis les années 94 et avec tout ce qu'il y a eu comme instabilité politique. Je pense que maintenant, il faut reprendre la confiance de l'Occident, il faut reprendre la confiance des États-Unis, montrer aux États-Unis, montrer à l'Occident que nous sommes aussi capables d'offrir et le service et tout ce dont ils ont besoin pour avoir un partenariat gagnant-gagnant, quoi.
Justement, c'est très intéressant que vous évoquiez l'aspect des services parce que partant de votre expérience, hein, vous avez un cabinet d'expertise comptable et vous avez des partenariats avec des firmes à l'international. Est-ce qu'on peut dire que le Congo n'a pas que les ressources naturelles à offrir, mais il y a aussi son intelligentsia qui peut aussi attirer des investisseurs américains.
Tu l'as dit, je pense que il y a l'intelligentsia au Congo. Là, il n'y a pas de doute, parce que quand vous allez même dans les organismes internationaux, il y a beaucoup de Congolais qui se distinguent bien. Et pendant qu'on était en période de crise ici, l'Occident, les États-Unis avaient des services à demander au Congo, de grandes firmes.
Lesquelles, par exemple?
Comme nous sommes dans le domaine d'audit, de conseil et tout, là je peux parler de firmes comme Deloitte, comme KPMG, qui ont des partenaires ici localement, mais du fait qu'il y avait un problème de sécurité et qu'il y a des consultants, que les consultants de ces firmes ou le personnel de ces firmes ne pouvaient pas se déplacer pour le Congo, nous on était contactés par certaines firmes pour exécuter les missions. Je pense que les missions étaient exécutées dans le respect des normes et à leur satisfaction.
Quelle lecture vous avez aujourd'hui de la coopération économique entre le Congo et les États-Unis?
Pour le moment, entre les États-Unis et le Congo, je ne vois pas. Parce que là, je veux plus parler du Sud Kivu. Je ne vois pas une ouverture que nous avons vers les États-Unis, à part quelques jeunes opérateurs économiques congolais établis aux États-Unis qui commencent à amener de temps en temps des conteneurs ici, venant des États-Unis, avec les produits américains. Mais dire qu'il y a des Américains qui viennent avec du business ici, je ne les ai pas encore vus.
Peut-être qu'à l'issue de ce sommet, la tendance pourra être inversée.
Mais c'est ce qu'on va maintenant chercher. On va montrer aux Américains qui n'ont pas à douter que le Congo, le Sud Kivu, constitue toujours un marché, un grand marché, et qu'ils ont intérêt à venir. Et dans le cadre des affaires, il y a quand même une sécurité. Hein, il n'y a pas de doute qu'ils viennent. C'est encore un marché. Et ils ont à prendre ici, ils ont à amener ici, et nous aussi, on a à amener chez eux.
Comment le pays peut faire pour mieux attirer les capitaux américains?
Pour attirer les capitaux américains, il faut mettre seulement la sécurité. Il faut le mettre en confiance, il faut mettre les Américains en confiance. Il y a aussi le... Bon, évidemment, on est en train de travailler sur le climat des affaires, hein, qui est en train de s'améliorer. Il faudra maintenant que ce qui est dit, ce qui est écrit, les dispositions qui sont prises par le gouvernement soient mises en application.
Joyeux Baïdika, je vous remercie.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition mise en onde par Mimi Kindou, coordonnée et supervisée par Alain Irung Mushinj. Merci pour votre particulière attention.